franceinter.fr.
C'est une querelle, non pas de clochers, mais de chapelles. Depuis quelque temps, un certain nombre d'économistes universitaires s'inquiètent du manque de pluralisme dans l'enseignement. Une inquiétude exprimée dans un livre dont le titre raconte tout. À quoi servent les économistes s'ils disent tous la même chose? Il y aurait deux camps, d'un côté les économistes orthodoxes, partisans d'un marché qui s'auto-régulerait et de formules mathématiques, et de l'autre des économistes hétérodoxes, partisans de croiser l'économie avec les sciences sociales. Ce sont les hétérodoxes qui estiment avoir bien peu trop de place et à l'université et dans les médias. Le débat dépasse largement le cadre de l'enseignement. Depuis une certaine crise de 2008, les Français s'intéressent à l'économie. PIB, dette, ratio font maintenant partie du vocabulaire courant, avec une volonté de ne plus laisser toutes ces questions qu'aux seuls spécialistes et surtout d'aborder toutes ces questions selon différents points de vue. Les économistes disent-ils tous la même chose? C'est notre débat du jour.
Thomas Chauvineau, le débat de midi sur France Inter.
Avec trois invités pour commencer ce débat, Olivier Favreau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes plutôt donc du côté des hétérodoxes, vous aurez l'occasion de nous en parler. Augustin Landier, bonjour.
Bonjour.
Vous serez celui qui est orthodoxe, vous nous donnerez à chacun vos définitions de ce que sont que ces courants, ces chapelles, ces églises d'économistes. Laura Rem, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante et collaboratrice notamment du monde diplomatique, mais comme tous les vendredis, c'est avec notre partenaire Marianne que nous ouvrons l'émission et c'est avec vous, Éric Decouty, bonjour.
Bonjour.
Vous avez rencontré un acheteur de la grande distribution, c'est dans vos pages de Marianne cette semaine. C'est assez rare hein, d'ailleurs, oui. Je pense que vous allez pouvoir nous le dire. Celui qui négocie donc le tarif avec les producteurs, parfois avec des petits producteurs. Et son interview commence comme ça. Je souhaitais lire, citer les propos de cet acheteur que vous avez rencontré. Le public pense que nous autres acheteurs de la grande distribution sommes de grands salopards. Il a raison, nous exerçons un métier de tueur, nous sommes payés pour cela, des tueurs de petites PME, de petits producteurs qui font vivre une poignée de salariés, que nous contraignons à vendre leurs produits à des prix toujours plus bas. C'est vrai, il n'y a pas mort d'homme, mais leur vie est anéantie. Témoignage qui commence très fort, Éric Decouty.
Et qui se poursuit comme ça, c'est un témoignage, c'est un document exceptionnel. Vraiment, Jean-Claude Jaillet, qui est le journaliste qui a recueilli ce témoignage, connaît bien le sujet. Il a travaillé pendant des années sur cette thématique. Ce témoin, il l'a rencontré après des heures, je veux dire des jours, des semaines de négociations en quelque sorte, parce qu'il a fallu, qu'il accepte de raconter cette vérité. Et sur le fond, c'est quelque chose de redoutable, parce qu'il donne dans le détail, il révèle des pratiques qu'on savait, que tous les spécialistes savaient, mais qui sont absolument accablantes. Corruption, étranglement des petits producteurs, des méthodes qui sont des méthodes d'un autre temps. Et ce qu'il dit aussi, c'est que les gouvernements successifs, depuis toujours, ont renoncé à chercher à réguler ce système. Et c'est un témoignage qui résonne d'autant plus aujourd'hui dans l'actualité qu'on voit, il y a des manifestations en Bretagne de petits producteurs qui disent c'est fini, nous on est étranglés, on parle d'économie, mais on ne survivra pas à ce système-là, on est en train de mourir et on a aujourd'hui, par ce témoignage, l'autre face, c'est-à-dire les pratiques. Comment est-ce que la grande distribution aujourd'hui est en train de tuer ces petits producteurs, ces petits exploitants, ces petits fournisseurs?
Des grands témoignages en effet en ce moment qui concernent les éleveurs en Bretagne. Il y a une question que pose le journaliste de Marianne, c'est quelles que soient les lois, les grandes surfaces, la grande distribution s'arrange pour les contourner. Et la réponse de cet homme que vous avez interviewé et qui reste évidemment anonyme, on le comprend pourquoi, puisqu'il continue à exercer ce métier d'acheteur, c'est oui, et il donne de nombreux exemples.
Oui, c'est on voit que dans le détail, par exemple, je vais en prendre un, c'est qu'il y a un producteur qui vient, il veut lui vendre un produit. Et le type dit, moi, ça c'est trop cher, ça marchera pas ce produit-là, ça marchera pas. Et lui dit, si, il est en question de survie, tu verras, ça marchera de toute façon à ce prix-là, tu me proposes un prix trop cher. Et il lui dit, si je te donne 25 000 euros, tu le mets sur le marché? Il dit 25 000, non, mais 50 000, oui. Et il arrive avec 50 000 euros et il met le produit sur le marché. C'est aussi pour des anniversaires de grande surface. Donc il y a un enjeu extrêmement fort. Ils vont accepter de mettre parce que c'est, pour les producteurs, c'est quelques moments extrêmement forts dans cette grande surface, il y a beaucoup de clients qui vont venir, eh bien, ça va être des voitures qui vont être données, ça va être des cadeaux, mais des courses considérables.
Enfin, données.
Pas données.
Sans avoir trop le choix.
Absolument, sans avoir trop
le choix. Sinon, les produits ne sont plus référencés.
Ils ne sont plus référencés. Et alors, ce que dit aussi, c'est qu'il y a un moment où, de toute façon, ça, c'est les grandes surfaces justifient, ne justifient pas, mais en tous les cas, c'est dans l'intérêt du consommateur. Parce que le consommateur, lui, ce qu'il veut, c'est payer le moins cher possible. Mais ce qu'il dit qu'en fait, c'est faux, parce que le producteur qui est étranglé, ceux qui vont survivre, eh ben, ils vont essayer de se rattraper. Ils vont se rattraper sur d'autres produits. Et au final, ce qu'il explique, c'est que le consommateur est perdant. Le seul qui est gagnant, en fait, c'est la grande distribution, c'est la grande surface et la centrale d'achat. Et je trouve que par la force du détail de ce témoignage, on va tous comprendre quand on va dans le supermarché, on va tous comprendre que derrière, eh bien, pour reprendre l'expression du grand témoin, il y a des cadavres, il y a des personnes qui travaillent et qui finalement, ou survivent parce qu'ils les maintiennent à flot par des petits moyens ou finalement renoncent, disparaissent et cèdent leurs entreprises.
Mais quelle est l'alternative dans ce cas-là, Éric Descoutis?
L'alternative, c'est un système qui serait enfin régulé parce que on pourrait, si vous me permettez une autre petite précision, c'est qu'il y a un système de commission et de rétrocommission, oui, comme sur les grands contrats internationaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'arrangent en disant, bah tiens, on va faire et puis on va se redistribuer une partie de la commission. Donc, il y a un système, c'est une volonté politique, on le voit bien. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a dit ce matin, en Bretagne, 20 à 25 000 petites entreprises sont menacées de disparition. Donc, il fait ce constat-là très bien et je pense qu'il a raison. Je pense même que si on croit les spécialistes, le chiffre serait plus important. Mais il faut que le politique prenne à bras le corps. Ça a peut-être heurté un certain nombre de vos débatteurs aujourd'hui, mais il y a une nécessité de réguler un système qui aujourd'hui, on a aussi, et il le dit, c'est l'ultralibéralisme qui a abouti à ça. C'est-à-dire que le libéralisme, oui, à un moment, il a besoin de règles, il a besoin de codes, et on le voit là dans le détail, c'est un besoin de règles qui s'impose.
Un exemple très intéressant aussi, c'est le regroupement de certains producteurs, notamment les producteurs d'endives, qui en avaient assez d'être soumis à ces diktats, pour reprendre un autre titre de votre Marianne de cette semaine, et qui sont ensemble, regroupés, quitte d'ailleurs à faire une entorse à la loi de la concurrence.
Ben, ils sont obligés de s'organiser. C'est-à-dire que c'est un système qui est extrêmement pervers. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, l'illégalité génère l'illégalité. C'est-à-dire que c'est des gens qui, pour survivre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un système de vie ou de mort. Quand on voit ça, c'est que des gens sont, si ils veulent survivre, et continuer à faire vivre des gens qui travaillent pour eux, et ben, ils sont obligés eux aussi de contourner les règles. Et l'entente est aujourd'hui, pour un certain nombre de producteurs, le dernier moyen. En tous les cas, un des derniers moyens.
L'inégalité génère l'illégalité. Voilà une belle phrase d'Éric Descoutis qui va se retrouver sur Twitter dans quelques minutes, j'ai l'impression. Merci d'avoir été avec nous. Donc, ces confessions d'un salopard, comme vous les appelez, c'est à retrouver dans le Marianne.
Il se dit lui-même, je suis un salaud.
Donc, ces confessions d'un salopard, comme il se définit lui-même, à retrouver dans Marianne cette semaine, avec en couverture Angela Merkel, et vous ne reculez devant rien, vous ne l'épargnez pas à nouveau Angela Merkel, puisque cette semaine, elle a un casque de Napoléon sur la tête.
Oui, Bismarck, c'est un casque de... Mais vous savez, effectivement, il y a déjà une polémique qui naît autour de cette une et de ce montage. Si on regarde la presse allemande, et vous trouverez dans Marianne cette semaine une série de une de la presse allemande, Angela Merkel, en Allemagne, elle est beaucoup plus critiquée et il y a une rupture beaucoup plus profonde que ce qu'on veut bien entendre aujourd'hui en France.
En couverture en tout cas de Marianne aujourd'hui, et notre thème, les économistes disent tous la même chose, notre menu du jour, un menu qu'on partage avec vous sur franceinter.fr ou sur Twitter @ledebatdemidi. Dites-nous si vous êtes plutôt ortho ou hétérodoxe, l'économie est-elle mathématique ou sociale? On attend vos réactions.
I do not agree, this is not for me, no, musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no, musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and the gospel singer giving those messages of love. Woe in the soul, man, with your heart in the palm of his hand, singing his stories of love and pain. Oh, I do not agree, I do not agree. This is not for me. No musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me. I won't let it be. No musical genocide. Give me a blues song. Tell the world what's wrong. And what about the gospel singer? Heavenly messages of love. And woe the soul of man with your heart in his hands, singing his stories of love and pain. Whoa, I do not agree. I do not agree, I do not agree. No. Not for me. Come on, come on, come on, come on, come on, people. Come on.
Il s'appelle Gregory Porter et Musical Genocide, c'est le titre de cette chanson qu'on vient d'écouter. Il est midi 16 sur France Inter.
France Inter, le débat de midi.
Un débat qu'on consacre aujourd'hui à l'économie. À quoi servent les économistes s'ils disent tous la même chose? C'est le titre d'un livre qui nous a donné envie de faire cette émission. L'auteur, l'un des auteurs de ce livre est avec nous, Olivier Favreau. Augustin Landier est également là, professeur d'économie à la même école que celle du fameux aujourd'hui Jean Tirole, prix Nobel qui n'est pas tout à fait Nobel. J'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir, Augustin Landier. Laura Rem qui est journaliste. Et puis Eric Decouty qui a décidé de rester puisque le thème de l'émission lui plaisait. Welcome, welcome Eric. Je le disais, vous avez participé à la coécriture de ce livre, Olivier Favreau. Pourquoi les économistes disent tous la même chose?
Alors d'abord, merci à France Inter d'organiser ce débat, qui n'est pas un débat corporatiste, qui est un débat qui a des répercussions dans la vie politique, et donc qui est un débat d'un grand intérêt. Donc vraiment, merci. Et donc la première question qu'il faut se poser, c'est comme ça que j'interprète votre question à vous, c'est au fait, pourquoi il y a un débat? Alors, il faut partir de choses extrêmement précises et objectives et qui ont donné lieu à ce bouquin. La profession des économistes universitaires s'alarme d'un biais extrême dans les recrutements de professeurs. Nous avons donné tous les chiffres, nous avons publié toutes les statistiques et le résultat est là. Depuis 16 ans, on n'est pas remonté au-delà donc de 1990, sur 340 professeurs nommés, eh bien 85% relèvent de la même école de pensée, alors voilà, qu'on va appeler mainstream et orthodoxe. Et le reste, alors 5% c'est pour l'histoire de la pensée économique, et 15% c'est pour, alors voilà, on va dire les hétérodoxes. Et donc il faudra évidemment évoquer ce point. Et ceci, non seulement n'a pas été contesté, a convaincu les différents ministres qui ont nommé une commission pour réfléchir sur le problème. Donc il y a un problème. Ça, c'est le point de départ objectif, vous voyez, de notre débat, ouais. Et merci de l'organiser.
Mais dans le fond, qu'est-ce qui vous oppose entre ce que vous venez d'appeler l'économie mainstream ou orthodoxe et l'économie, que le chemin que vous souhaitez prendre en tant qu'économiste?
Alors, Bien sûr, on va avoir ce débat hein, sur orthodoxe, non orthodoxe.
Il nous reste 40 minutes pour en parler.
Voilà, ça c'est bien. Mais la première chose que je voudrais dire, parce qu'on pourrait faire des kilomètres de colloques scientifiques hein, pour discuter tous les deux et avec les journalistes spécialisés sur qu'est-ce que ça veut dire exactement, quelles sont les hypothèses qui sont dedans et qui ne sont pas dedans. Mais la première chose que je voudrais dire, c'est que ce clivage est très clair dans la profession. Et pour n'importe quel économiste professionnel, en 3 minutes... on identifie quelqu'un ou un texte comme orthodoxe ou pas orthodoxe.
Vous avez un peu moins de 3 minutes pour nous expliquer quelle est la différence fondamentale entre l'un et l'autre.
Alors, le mieux, c'est que je vous raconte peut-être une histoire qui est tirée de mon expérience personnelle. J'ai enseigné pendant des années et des années, c'était mon cours préféré, le cours d'économie du travail, avec le marché du travail, réfléchir sur le chômage. Et je faisais défiler tous les modèles modernes, etc. Alors, je vais vous donner les termes techniques, contrat implicite, modèle de prospection, insider, outsider, etc., etc. J'adore les mathématiques, et donc on démontrait tous les termes. Et puis, à la fin, je me tournais vers les étudiants et je disais, bon, alors maintenant, on va plus faire de maths. Comme si vous parliez à votre grand-mère ou à votre oncle ostéopathe, etc., ou à votre petit frère, vous allez me dire pourquoi il y a du chômage. L'exercice était un peu difficile, un peu déroutant pour les étudiants, mais la réponse, quand on grattait derrière la technique des modèles, c'était, eh ben, écoutez, tous ces modèles, ils analysent la question de l'emploi à travers l'idée qu'il y a quelque chose qui a un marché, offre, demande du travail, et que le prix du travail est inapproprié. Le coût du travail est trop élevé. Or, c'est à ce moment-là qu'il y avait un choc pour les étudiants, comme pour nous enseignants. Ceci est exactement la question contre laquelle Keynes luttait dans les années 30. Donc, ça veut dire qu'il y a, au-delà de la technicité des modèles, et qui sont d'ailleurs des modèles intéressants qui permettent de réfléchir, il y a un soubassement cognitif commun qui traverse les décennies. Donc, on est en face, et vous voyez, qui colore évidemment la façon dont on va aborder les problèmes de politique économique, et en particulier les problèmes d'emploi et de chômage.
Augustin Landier, comment vous définiriez donc cette économie orthodoxe dont a priori un tenant ?
Donc je comprends qu'on cherche à polariser le débat de cette manière. Pour moi, il n'y a qu'une seule économie et je ne me définirais pas comme un orthodoxe. Il y a, pour faire vite, hein, je ne sais pas très bien quelle est la bonne manière de représenter les choses. De mon point de vue, moi j'ai fait une grande partie de ma carrière aux États-Unis, je suis revenu en France récemment et j'avais une partie de mes études ont été faites en France. Pour ma génération, que j'ai 40 ans, les économistes de ma génération, je ne sens pas du tout cette polarisation orthodoxe-hétérodoxe. C'est-à-dire que tous, en particulier après la crise, on sent bien l'intérêt d'injecter beaucoup plus de psychologie, d'anthropologie, même de biologie dans l'économie. C'est pas du tout une discipline monolithique, si vous voulez. Il y a une prolifération de méthodologies nouvelles, il y a une avalanche de données en particulier qui fait que beaucoup de nouvelles technologies sont utilisées de plus en plus. Comprendre les réseaux sociaux, etc. Des choses qu'on pouvait pas faire avant, c'est-à-dire que le débat économique était surtout centré sur des agrégats macroéconomiques. Maintenant, les gens s'intéressent de plus en plus sur, comprendre les carrières. Par exemple, comment dans les carrières, on parlait du marché de l'emploi, le réseau de la personne va jouer un rôle. Comment les gens qui finalement sont pas très bien connectés, n'ont pas beaucoup d'amis ou qui changent de pays vont avoir plus de mal sur le marché de l'emploi. Ça, c'est complètement dans le mainstream entre guillemets. Alors parce que mainstream, et c'est un mot anglo-saxon, c'est pas hasard. C'est-à-dire qu'en réalité, la vraie division en France, enfin telle que je la vois, moi,
par courant principal.
Voilà,
en tout cas.
Pour faire vite et pour résumer, c'est-à-dire qu'il y a grosso modo les gens qui cherchent à publier dans les revues anglo-saxonnes, parce que comme les mathématiques, la physique, la biologie, etc., c'est devenu une discipline mondialisée. Hein. Et donc, il y a des centres qui sont de plus en plus internationaux. À l'école d'économie de Toulouse, on recrute beaucoup de gens de l'étranger. Il y a un japonais, un chinois, enfin voilà. Et du coup, tout le monde, la langue de travail, c'est l'anglais. Et on cherche à publier dans les revues anglo-saxonnes. Et puis, il y a une sorte de ranking, de classement, si vous voulez, des revues. Et voilà, les gens essayent un peu, il y a un petit côté compétition, les gens essayent d'être publiés dans les revues qui sont les plus prestigieuses. Bon. Alors après, effectivement, ça veut dire que la langue française a été abandonnée. C'est plus la langue de travail. Moi, pour moi, cette page-là, elle est tournée. C'est-à-dire que ça s'est joué dans les années 80-90. On ne publie plus en français.
Éric Favreau ne parlait pas de langue. Il disait juste, en gros, qu'il y a... Si je peux me permettre de résumer son propos, il y a un schéma mathématique qui permet d'expliquer la courbe du chômage, par exemple, mais à côté de ça, il y a aussi un schéma social et les orthodoxes oublieraient ce schéma social.
Mais je regrette de devoir le dire, c'est complètement faux. C'est-à-dire que actuellement, les économistes du travail s'intéressent énormément à la psychologie, l'idée du marché du travail comme un marché qui serait comme le marché des bouteilles d'eau minérale avec un prix, etc., une offre et une demande qui se matcherait immédiatement, c'est plus du tout le paradigme dominant. C'est-à-dire que les gens s'intéressent aux frictions de recherche du travail. ce qu'on appelle les modèles de matching, essayer de comprendre comment bah, vous allez avoir du mal à trouver quelqu'un qui vous prend en considération, qui prend votre candidature en considération, parce qu'il dit bah, peut-être que ça va marcher. Voilà, donc... Je récuse vraiment cette idée qu'il y aurait d'un côté des espèces de matheux naïfs qui seraient dans leurs équations et qui du coup auraient une vision complètement désincarnée de l'homme et de son rapport à la société, et puis de l'autre des gens qui chercheraient à injecter du bon sens et un peu d'humanisme dans la vision des questions économiques. C'est pas le cas, et ça, il y a eu peut-être une dérive mathématique dans les années 80 avec beaucoup, et les Français ont joué un rôle particulier parce qu'il y avait beaucoup de matheux, purement matheux, qui s'intéressaient pas vraiment à la question un peu charnelle de l'économie. Encore une fois, pour les économistes de ma génération, c'est pas le cas. Et les gens qui ont été les étudiants des hétérodoxes, dans ma génération, il y en a beaucoup. On va pas commencer à faire un peu des palmarès, mais des gens comme Xavier Rago, par exemple, qui est directeur de l'OFCE actuellement, c'est un héritier de cette tradition. C'est un étudiant de Michel Aglietta. Pour moi, c'est un économiste. Il publie dans les mêmes revues, il fait des papiers au format habituel, et il cherche à les publier dans des revues anglo-saxonnes. Donc il n'y a pas du tout de différence. Je regrette. Hein.
Je voudrais. Non, mais. Vous n'avez pas à le regretter. Je voudrais qu'on pose la question à Laura Rehm. Vous êtes donc journaliste et vous travaillez sur ces questions. Différence ou pas de différence alors ?
Oui, alors c'est pas étonnant que un orthodoxe nie qu'il y ait une orthodoxie. C'est le propre de l'orthodoxie. Alors moi, je dirais que pour les hétérodoxes, eux, ils savent bien qu'il y a une orthodoxie, une hétérodoxie, puisqu'ils constatent bien que...
Ils parlent en français.
Non, pas seulement. Quand ils soumettent un article en anglais aux bonnes revues, on leur refuse. On leur dit, vos agents ne maximisent pas, ceci n'est pas un article d'économie, soumettez-le à une revue de sociologie. En fait, c'est donc les post-keynésiens, les régulationnistes, les conventionnalistes, les marxistes... sont face à un barrage, et ça, vous ne pouvez pas leur nier que ce barrage existe. Alors, mais c'est vrai que la définition, les critères ne sont pas évidents. Ce n'est pas gauche-droite.
D'où la difficulté d'en
parler aussi. Voilà, orthodoxie, hétérosie, ce n'est pas gauche-droite. On a des orthodoxes du mainstream qui sont de gauche, Krugman et pour la relance, pour la régulation financière. Ce n'est pas gauche-droite. Et ce n'est pas non plus math, pas math. On a des post-keynésiens qui font de la modélisation mathématique qui n'a rien à envier à la modélisation de la théorie néoclassique, par exemple. Moi, je dirais que le critère fondamental, c'est plus le paradigme individualiste, profondément individualiste. Tout est abordé à travers... ce sont des agents qui interagissent entre eux sur des marchés et non pas des forces sociales, une société, du collectif. Donc, avec ce prisme individualiste et mécaniste, c'est très difficile d'aborder des questions plus globales. Qu'est-ce qu'une crise ? Qu'est-ce que la valeur ? Qu'est-ce que la richesse ? Des questions comme ça.
Plus philosophique, vous voulez dire ? Qu'est-ce
que
le profit ?
Oui, l'économie hétérodoxe se considère vraiment comme une science sociale qui dialogue réellement avec les autres sciences sociales, la sociologie, les sciences politiques. Et c'est ce qui lui permet d'avoir plus de profondeur, je pense, conceptuelle.
En même temps, en tant que science, si les économistes disent tous la même chose, après tout, les physiciens aussi disent tous la même chose. Les physiciens s'accordent tous pour reconnaître, je ne sais pas, que la théorie de la relativité fonctionne.
Alors, le propre de la science, c'est la controverse. C'est-à-dire que la frontière technologique, le lieu de la production scientifique, c'est le lieu de la controverse. Et d'ailleurs, tout le processus académique du séminaire, c'est où vous présentez vos travaux, et puis la partie en face, les gens qui écoutent, sont censés être l'avocat du diable. Ils ne sont pas du tout là pour hocher de la tête et dire c'est vraiment pas mal ce que vous faites. Au contraire, ils sont là pour essayer de contester la validité de vos résultats. Et le principe de la publication, c'est le même. C'est-à-dire que vous envoyez un papier, orthodoxe ou pas orthodoxe, moi quand j'envoie un papier, la probabilité qu'il soit accepté, elle est toujours inférieure à 30%. Et même s'il n'est jamais accepté directement, d'ailleurs, on va m'envoyer des tas de lettres qui me disent il faut changer plein de choses, faire tel ou tel test. Donc c'est pas du tout facile de publier pour personne, qu'on soit orthodoxe ou hétérodoxe. C'est très difficile et très compétitif, exactement comme il n'y a pas beaucoup de joueurs de tennis qui sont dans le... Donc il y a un côté comme ça, c'est difficile de publier dans les très bonnes revues. Bon, après, moi je ne dis pas que tout le monde doit publier dans les top 3 ou top 5 revues mondiales, c'est pas le point.
Sur mais cette question Éric Favreau nous explique au tout début de l'émission que depuis une quinzaine d'années, sur les 340 enseignants recrutés à l'université, 85% sont des enseignants dits orthodoxe. Donc là, il y a bien une différence.
Ça veut dire qu'ils écrivent en anglais.
De
oui, on sélectionne. Les universités cherchent à sélectionner des gens qui publient des papiers dans les revues internationales, si vous voulez, pas les revues françaises. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un biais de cette nature, mais il est lié à la globalisation de la discipline qui s'est jouée dans les années 80. Et juste un petit point, la théorie, parce que vous parliez beaucoup de théorie, la théorie est devenue très minoritaire actuellement en économie. Il se trouve que voilà, comme vous ouvrez n'importe quelle revue dite mainstream, et vous trouverez essentiellement des papiers empiriques, c'est-à-dire qui regarde les données, et souvent de manière très descriptive, précisément parce que la période qu'on traverse est une période d'avalanche de données, où les gens font presque de la leçon de choses, ils disent ben, regardons ce qui se passe, là, si Facebook passe ses données à des économistes, c'est ce qu'ils font, hein. Toutes ces boîtes des réseaux sociaux travaillent avec des économistes, et donc il y a toute une partie quasiment un peu descriptive de comprendre ce qui se passe, comment ça marche, etc.
Sur franceinter.fr, ces témoignages qui nous arrivent, Pierre qui nous dit le film documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde, tiré d'un livre ancien maintenant de Serge Halimi du Monde Diplomatique, que vous devez connaître, Laura Rem, montre bien la tendance qu'ont les médias à donner et redonner la parole toujours aux mêmes sans que la neutralité, la clairvoyance soient toujours avérées. Pourquoi les autres voix ne sont-elles pas davantage invitées? J'espère qu'on donne ici à entendre d'autres voix. Et puis Emmanuel qui nous écrit « Bonjour, je suis l'épouse d'un économiste hétérodoxe qui tous les jours désespère d'entendre le même discours économique, une seule voix sans aucun débat de fond, sauf lorsque le regretté Bernard Maris intervenait sur votre antenne le vendredi. Mais là n'est pas ma question, je voudrais connaître votre avis sur la mainmise des économistes orthodoxes sur l'éducation, sur l'enseignement supérieur, les facultés, Sciences Po, etc. etc. Je me retourne vers vous, Éric Découty, vous nous avez fait l'amitié de rester, journaliste à Marianne. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce clivage ou non-clivage, puisqu'on ne sait même pas finalement s'il y en a un entre cette économie mainstream et une autre façon d'aborder l'économie?
Vous savez, moi, je trouve votre débat absolument passionnant. Mais ce que j'ai du mal à voir, et je pense que pour les médias, c'est à peu près la même chose, c'est comment est-ce qu'on passe de cette économie théorique, intellectuelle, universitaire, à la politique. C'est-à-dire que, me semble-t-il, et je suis un béotien absolu, c'est que tous vos travaux comme n'ont d'intérêt que si finalement ils ont une traduction politique. Et aujourd'hui, et nous aussi, médias, comment est-ce qu'on est capable de les traduire? Comment est-ce qu'on est capable de les mettre dans le débat public? J'entends bien que ce que vous dites sur la nécessité, évidemment, de publier dans les revues est fondamental. Mais c'est comment est-ce que votre discipline, on la traduit dans le réel? Comment est-ce qu'elle devient? Et quand Laura a parlé, on ne sait plus si c'est la droite, c'est la gauche. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est comme si vous fonctionnez. Alors, je ne dis pas ça pour vous provoquer, c'est comme si vous fonctionnez de façon très universelle, comme si la politique était en dehors et que finalement les passerelles entre les deux se faisaient mal.
Est-ce que c'est peut-être l'une des différences fondamentales entre les orthos et les hétéros, peut-être créer plus de passerelles entre l'économie et la vie réelle, Olivier Favreau?
Non, je suis pas vraiment d'accord avec ce que vous venez de dire, Éric Découty, parce que précisément, regardez l'exemple que j'ai pris, c'était sur la question du chômage, et qui aboutit derrière la diversité, qui est tout à fait réelle, et qui d'ailleurs est un plaisir pour moi, enseignant, la diversité des modèles, qui aboutit à un diagnostic inchangé, c'est-à-dire, au fond, l'explication du chômage, vous allez la chercher uniquement sur le marché du travail, et pas sur le marché du bien, ou sur l'articulation avec le marché du bien et le système financier. Il me semble que c'est une question de politique économique tout à fait centrale, que ce que je viens de dire, vous pouvez le traduire immédiatement en termes de, dans le langage d'aujourd'hui, la flexibilité, etc., le coût du travail, le prix du travail excessif. Il y a eu une excellente chronique de mon vis-à-vis Augustin Landier dans Les Échos. Là, c'est votre dernière chronique avec David Tesmar, où à très juste titre, vous intervenez dans le débat sur comment est-ce qu'il faut réduire les charges sur le travail. Est-ce qu'il faut le faire uniquement sur les travailleurs peu qualifiés ou sur les travailleurs ou sur l'ensemble des travailleurs, et en regrettant que finalement le gouvernement actuel ait choisi une voie médiane. Mais ce que je veux, donc vous voyez, c'est vraiment un problème de politique économique. Mais regardez. Dans le cas que, et je vous invite à lire, l'excellente chronique de nos collègues de Toulouse ou de HEC, mais regardez, ce qui sépare les deux positions que vous avez confrontées est beaucoup moins important que ce qui les rassemble. C'est-à-dire que pour lutter contre le chômage, la seule chose à faire, c'est de s'intéresser au prix du travail. Je ne dis pas, je suis économiste, que le prix du travail n'est pas important. Mais il me semble qu'aucune mesure de réduction des charges ne sera jamais aussi importante qu'un point de croissance en plus. Et ça, c'est absent, vous voyez, du panorama de votre raisonnement. Voilà où apparaît l'orthodoxie.
Oui, ma question, peut-être que je me suis mal fait comprendre. Ma question était plutôt, est-ce que le politique aujourd'hui vous entend et vous écoute? Est-ce que la passerelle, moins de votre responsabilité, orthodoxe ou hétérodoxe, est-ce que le politique vous écoute? Je vais prendre simplement un petit moment d'actualité. On a l'impression que, sur la question grecque, par exemple, que moi, j'ai, comme Béotien, j'ai lu, j'ai écouté un certain nombre d'économistes, on a l'impression que le politique, dans sa traduction concrète de la réflexion, ben, il n'a pas écouté. On a l'impression qu'il est ailleurs. Moi, ma question que je vous pose, orthodoxe ou hétérodoxe, est-ce que vous avez l'impression d'être entendu, écouté par les politiques?
Alors, d'abord, là où vous avez raison, c'est que je pense que beaucoup d'économistes, alors je dirais pas orthodoxe, j'aime pas ce mot, mais dit mainstream, évitent le débat public. Ils considèrent que c'est pas leur job et qu'il y a que des coups à prendre, que de toute façon on n'est pas écouté ou compris, que très vite les débats deviennent idéologiques. Ce qui est précisément ce que la science économique essaye d'éviter, c'est-à-dire que la modélisation mathématique, c'est pas parce que les gens aiment les maths, c'est juste pour trouver une langue commune où on peut dire, essayons de rendre le débat pas idéologique et de pouvoir voir les causes et les effets noir sur blanc, disons. Sans rentrer après dans la rhétorique, parce que c'est ça le danger de beaucoup de débats économiques, c'est que très vite, on va pouvoir mettre en valeur des effets et essayer de leur donner une importance sans vraiment, au fond, parler de la même chose. Donc la mathématique, elle sert vraiment à ça, c'est une langue commune, juste pour mettre noir sur blanc ce dont on parle. Hein. C'est pas une
la question d'Éric Descoutis, c'était de savoir si vous étiez entendu. Hein.
Voilà. Donc entendu, d'abord, je dirais, sans doute pas, mais peut-être à juste titre. Pourquoi ? Parce que souvent, les économistes n'ont pas à se prononcer sur les préférences sociales. Si vous prenez le cas de la Grèce, par exemple, les préférences pour la solidarité ou non avec les Grecs, c'est-à-dire combien est-ce que chacun d'entre nous on est prêt à payer en transfert vers la Grèce, ça c'est pas une question d'économie. C'est-à-dire que les économistes peuvent dire, bah, si chacun était prêt à payer X, effectivement, dans ce cas-là, le plan optimal, entre guillemets, ça serait de faire cette chose. Mais l'économiste doit toujours se mettre en retrait, à mon sens, dès qu'il s'agit de parler des préférences individuelles et collectives. C'est pas à lui de dire ce que sont les bonnes préférences.
Olivier Favreau, ça vous oppose ? Est-ce que vous pensez qu'il faut au contraire signifier alors, quelles seraient les bonnes préférences si on reprend l'exemple de la Grèce ?
Mais en fait, nous sommes écoutés par les politiques. Dans le cas du problème que j'ai évoqué, cet énorme biais massif dans les recrutements, nous avons été écoutés par les ministres puisque une décision avait été prise de créer une nouvelle section et qui finalement a été écartée parce que d'autres économistes sont intervenus, dont Jean Tirole. Donc là, je veux dire que vous avez un exemple in vivo de où les économistes, alors je sais bien que ce n'est pas les problèmes de politique économique que vous évoquez, ont eu une influence tout à fait directe. Puisque vous nous poussez à élever un petit peu le débat ou à sortir de ce domaine pour parler de la Grèce, moi, ce qui me frappe, et ça a quelque chose à voir avec l'opposition entre orthodoxie et hétérodoxie, c'est d'abord la réduction du politique à l'économique, ensuite de l'économique au financier, et enfin, dans la version dramatique qu'on a vue ce week-end dernier, du financier au comptable. Et ça a quelque chose à voir avec la façon dont on conçoit la discipline économique.
Allez, vous l'avez bien compris, hein, le thème de ce matin, c'est l'économie, et donc cette querelle entre deux chapelles orthodoxes, plutôt libérales, pour le dire
pas
vite.
Pas du tout, non, c'est vraiment excessif.
Et hétérodoxes, plutôt sociales. Allez, il fallait bien essayer
non,
de poser
c'est très
des...
faux. C'est vraiment, là, je ne peux pas laisser dire ça. C'est d'autant plus faux que des gens comme Krugman, Stiglitz, qui sont très lus, Piketty, qui est aussi très lu, sont des gens qui sont complètement dans ce qui est qualifié par les hétérodoxes d'orthodoxe, c'est-à-dire qu'ils publient dans l'American Economic Review, etc. Ce sont des ténors, si vous voulez, de l'orthodoxie, donc c'est quand même très très malhonnête de décrire.
On continue et on va essayer de s'entendre dans les 20 minutes qui nous restent sur une prochaine définition. Et après le disque, nous serons en ligne avec le patron du journal libéral et assumé, l'opinion, Nicolas Bétou. Mais d'abord, la grande Sophie qui chante Maria Yudina, pianiste russe, qui considérait que la musique est un tout, comme d'autres peuvent considérer que l'économie est un tout.
Non, je ne suis pas, non, je ne suis pas Maria Yudina. Je n'ai pas de revolver au fond de mon sac, pas de clé de phare. Et pourtant, j'entends les marteaux si souvent, là sur le piano. Non, je ne suis pas, non, je ne suis pas. Je n'ai pas de rhapsodie, pas de symphonie au bout de mes doigts. Oui, j'entends taper
Maria Iudina et la grande Sophie, il est midi et presque 41 minutes.
France Inter, Thomas Chauvineau, le débat de midi.
Un débat de midi consacré aujourd'hui à l'économie. À quoi servent-ils? Les économistes, ils disent tous la même chose, pour reprendre le titre d'un livre dont nous avons déjà parlé aujourd'hui. Olivier Favreau, le co-auteur de ce livre, économiste donc, professeur de sciences économiques à Paris-Ouest, Nanterre-la-Défense. Augustin Landier, économiste également et professeur d'économie à la très célèbre désormais Toulouse School of Economics. Laura Rem, journaliste indépendante. Et puis Éric Descouty de Marianne nous a fait l'amitié de rester. Sur franceinter.fr et sur Twitter, @lebatdemidi, ces messages qui nous arrivent. Axel qui dit... qui se pose la question, quel est l'axiome fondamental de l'économie? Cet autre témoignage pour dire l'économie est une science sociale, humaine. Les économistes orthodoxes simplifient la réalité dans des modèles fondés sur des a priori, l'homo economicus, le consommateur rationnel. Patrick qui nous dit ça commence mal en parlant d'économie orthodoxe ou hétérodoxe comme si c'était une église ou une religion, et c'est bien ma faute, en effet, j'ai employé le mot chapelle. Patrick dit, l'économie ne serait pas une science, mais le reflet d'idéologie politique, chacun ayant sa chapelle. Est-ce qu'on n'est pas là-dedans, justement? D'abord Olivier Favreau, et puis ensuite Augustin Landier.
Alors, la seule chose juste que je reconnaisse à travers l'usage du mot chapelle, c'est, en fait, quelle est l'origine de orthodoxie appliquée à l'économie? Vous le savez peut-être autour de cette table, eh bien c'est Keynes. C'est Keynes lui-même qui a organisé toute la théorie générale autour de l'idée qu'il y avait un corpus classique, on dirait aujourd'hui néoclassique, forgé autour de certaines hypothèses et qui pesait sur l'ensemble des esprits et qui empêchait d'aborder, pour lui c'était le problème évidemment numéro un, le problème du chômage involontaire massif, celui de la crise de 29, d'une façon satisfaisante. Alors, les temps ont changé, en fait, pas tant que ça. La connotation religieuse, même si j'aime pas beaucoup le terme de chapelle, reste intéressante. Parce que dans les discussions que nous avons, si on va au-delà des moments de dénégation et des denis, mais non, il n'y a pas de différence entre orthodoxe et hétérodoxe, etc. On se heurte très souvent à une objection et à un type de discussion qui est d'ordre un peu religieux. C'est-à-dire, vous, alors, hétérodoxe, ce que vous faites, ce n'est pas la science économique. Et d'ailleurs, dans la façon d'aborder le débat d'Augustin Landier, d'ailleurs fort logiquement, il a dit, voilà, la science économique, c'est ça, c'est être publié dans les grandes revues internationales. Donc vous voyez, que chacun défende son point de vue, ça c'est absolument élémentaire, vous croyez en ce que vous dites, je crois aussi, j'accepte simplement la critique. Sauf que, il y a un moment où la position des uns et des autres se durcit quand l'un des camps dit, c'est pas simplement que j'ai raison, c'est que j'ai raison au nom de la science. Et c'est ça qui complique d'ailleurs le débat politique. Le fameux TINA de Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Il devient encore plus grave, et peut-être les événements, la négociation en Grèce que nous avons vécue reflète tout à fait ce durcissement, c'est encore plus grave quand vous dites, il n'y a pas d'alternative au nom de la science. Or, c'est la science qui intervient, ou l'image qu'on se fait de la science qui intervient de façon intempestive.
Du modèle économique, Augustin Landier.
Écoutez, je crois que l'hétérodoxie, c'est le principe de la science, encore une fois. C'est-à-dire que la science, que ce soit Newton qui débarque avec ses théories, ça avance en permanence avec des gens qui contestent la doxa établie. Donc, nous sommes tous hétérodoxes, ou alors on n'est pas scientifiques.
Oui, mais sur ce qu'on aborde, par exemple, dans l'enseignement, je lisais, à ma grande surprise, dans les quelques documentations qu'on a pu se procurer sur cette question, que Marx n'était quasiment plus enseigné à l'université en tant qu'économiste.
C'est vrai, ça, je pense que c'est probablement vrai. Moi-même, par exemple, j'ai pas lu Marx et j'ai lu essentiellement Marx comme historien, c'est-à-dire que j'ai lu ce qu'il a écrit sur la France. Et pour moi, c'est l'intérêt peut-être principal de ses écrits. Mais j'ai pas reçu un enseignement d'histoire de l'économie suffisant à mon sens. Et je pense que l'histoire de la pensée économique a complètement sa place et que c'est un instrument important pour les gens, pour se repérer, pour voir un peu l'évolution des idées, la jeunesse des concepts. Mais alors, cela dit, encore une fois, il n'y a pas actuellement une espèce de doctrine naïve de l'homo economicus qui maximiserait tout comme un ordinateur, etc. C'est pas ça que les gens enseignent et personne ne croit à ça, si vous voulez. Donc les gens sont pas stupides, hein. C'est-à-dire qu'on sait bien que les gens sont un peu irrationnels, que parfois ils font des choses à contre-cœur, que les gens sont un peu altruistes, mais pas complètement. Donc tout ça est pris en compte et les gens essaient de d'introduire ces notions dans les modèles de la manière la plus astucieuse possible, la plus conforme à ce qu'on voit dans les données.
Laura Rem, journaliste au Monde Diplo.
Je suis d'accord pour dire qu'il faut absolument pas simplifier ce qui est la théorie mainstream. Et en effet, elle n'a pas cessé de se perfectionner, d'intégrer les critiques des hétérodoxes.
Mais c'est pas les critiques des hétérodoxes, c'est les critiques de la réalité. Enfin,
oui,
c'est la confrontation avec le réel.
Elle a aussi intégré les critiques
parler,
des
keynésiens.
Elle en vient à dire, oui, c'est vrai, finalement, l'information peut être asymétrique, il y a des frictions, et même récemment, elle en est venue à dire, c'est vrai, l'homo economicus, ça marche pas, l'individu est irrationnel, et ce qui a pu... Ce que je trouve intéressant avec cet exemple-là de l'économie comportementale, qui prend ses enseignements de la psychologie comportementale pour essayer de faire le catalogue de tous les biais cognitifs qui font que les consommateurs, les agents, les traders
ne sont
pas...
En gros, c'est comment fonctionne l'homme économique.
Pour de vrai, en fait,
voilà, quels sont ses ressorts,
il peut s'emballer, etc. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est vraiment l'exemple de comment le mainstream va absorber des critiques et se perfectionner. Mais en fait, finalement, le résultat est... très décevant. Parce qu'on aurait pu croire, ah, enfin, ils remettent en cause l'homo economicus. Or, l'homo economicus était ce qui permettait de justifier l'autorégulation des marchés, l'efficience des marchés. Ce qui avait permis, donc, de déréguler. Et on a vu le résultat catastrophique avec les subprimes. Donc, on a pu se dire, ah, après la crise, le fait de remettre en cause cette hypothèse fondamentale de la théorie néoclassique, ça pourrait conduire à remettre en cause les politiques de dérégulation. Mais ce qui est intéressant, c'est que la théorie néoclassique, enfin, le mainstream fait le tri dans ce genre de progrès et découple les deux hypothèses. Et l'hypothèse de rationalité des agents et efficience des marchés financiers. Ce qui fait que on a tout un plein de courants enfin qui se développent sur comme vous dites c'est les courants empiriques, l'économie est devenue très empirique.
On va regarder ça date des années 80,
bien sûr, ça date
Thaler,
Kahneman, etc., ça date des années 80, mais la crise leur a donné un boulevard puisque la crise remettait en cause plus que jamais l'homo economicus. Et donc on a vu ce que ça a donné, cette économie comportementale, ça n'a pas du tout conduit à remettre en cause la dérégulation des marchés financiers, ce qui aurait pu être un résultat intéressant
Mais les marchés financiers sont hyper régulés. Enfin, les banques centrales ont des pouvoirs, une concentration de pouvoir énorme dans les banques centrales.
Ils ont été extrêmement dérégulés dans les années 80 et 90. On commence à peine à... Les États-Unis ont fait vaguement Dodd-Frank, mais ce n'est pas une vraie régulation. Et on continue à s'en remettre à une idée du marché, d'un marché qui s'autorégule plus ou moins.
Alors, je voudrais qu'on écoute justement Nicolas Bétou qui est au téléphone avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc, on le sait, chroniqueur éco sur France Inter et puis le patron du journal L'Opinion, journal qui se présente d'ailleurs comme journal libéral. Est-ce que vous avez parlé de la sortie de ce livre « À quoi servent les économistes s'ils disent tous la même chose » dans votre journal, Nicolas Bétou?
Je ne suis pas sûr, mais si on avait eu l'occasion de le faire, je l'aurais fait avec plaisir.
Qui pose la question du pluralisme, finalement, dans l'économie. Est-ce que pour vous, c'est une question qui se pose?
Je pense que la question se pose dans toutes les sciences et dans toutes les disciplines. S'il y a un seul message et une seule façon de voir les choses, l'enfermement intellectuel arrive très vite. Donc non, tout ce qui est diversité est plutôt une bonne chose.
Donc pour vous, il n'y a pas de débat. C'est ça que ça veut dire.
Il n'y a pas de débat sur le fait qu'il y a besoin d'avoir des débats. Je ne suis pas sûr de m'être bien exprimé, mais à l'évidence, c'est ça qui nous porte. Et nous, on a le sentiment de, en tout cas depuis 2 ans que nous existons, l'opinion, de faire un média différent des autres et d'essayer d'exploiter cette différence.
Quand vous dites journal libéral, justement, on est dans une dominante économique ou dans une dominante idéologique ?
Idéologique, au sens où nous pensons que le libéralisme, en tout cas tel qu'on le essaye de l'appliquer dans la ligne éditoriale de notre média, c'est à la fois un libéralisme sur le plan économique, social, mais aussi sur les questions de société.
C'est-à-dire ?
Les questions de société.
Comment ça s'applique aux questions de société, oui. Comment ça s'applique aux questions de société, justement?
Sur ce qui est la famille, les histoires les questions liées à la religion, port du voile, enseignement, tout ça, on a une vision libérale de la société.
Oui, quelle est cette vision dans ce cas?
Eh bien, dans ce cas précis, si on parle du port du voile, par exemple, il y a eu toute une controverse sur l'extension de l'interdiction du port du voile à l'université pour les jeunes filles majeures, ce qui nous paraît être, nous, une position pas défendable. La vision libérale qu'on a du comportement des individus, c'est une jeune fille qui a envie de se voiler. Alors, pas le voile complet, pas le niqab, mais d'être voilé dans un espace public, en particulier à l'université, par exemple, peut parfaitement le faire. On a eu la même position sur, puisqu'on parle d'université, sur l'enseignement en anglais dans les universités. Il nous semble que le fait de refuser cette possibilité d'avoir des enseignements avec des étrangers, par des étrangers et sur des modèles qui sont intéressants à comparer à ce qui se fait en France, nous paraît être un enfermement, en tout cas une réduction des chances de la France d'être dans ce grand combat mondial.
Et est-ce que vous pensez que l'économie peut se passer d'idéologie, comme d'ailleurs le soutient l'un des invités de cette émission?
L'économie comme discipline scientifique. Hein,
oui, oui, évidemment.
Après, il peut y avoir un discours économique qui...
Nicolas Bétou.
Comme discipline scientifique, oui. Mais dans la pratique, la science économique sert des idées politiques qui sont elles-mêmes infusées à l'idéologie. Donc non, c'est impossible que dans la pratique, la science économique soit complètement conçue comme n'ayant aucun lien avec les choix idéologiques.
Merci Nicolas Bétou d'avoir été au téléphone avec nous. Donc l'opinion d'aujourd'hui, datée vendredi 17 et samedi 18 juillet, avec cette une « Terrorisme, à qui profite la peur ?» et puis cet autre article qui devrait vous intéresser, Augustin Landier, « Les emplois aidés et l'effet d'enfermement ». Merci Nicolas Bétou d'avoir été au téléphone avec nous. Vous vous souvenez, cette année, ça a été la fameuse nomination du prix attribué à Jean Tirole, donc prix Nobel, un peu trop rapidement appelé prix Nobel, parce que c'est le prix de la Banque de Suède en honneur à Nobel. Donc voilà, on a fait un petit raccourci en effet médiatique. Il y avait une réaction à l'époque qui avait été celle d'Attaque. Attaque, donc, que vous connaissez fort bien tous, qui déplorait finalement ce choix, qui s'inscrivait dans la lignée des économistes néolibéraux, en partie responsables de la crise. Est-ce que, Augustin Landier, vous êtes un économiste néolibéral, en partie responsable de la crise?
Alors, pour dire deux mots de Jean Tirole, tout de même, et ça en dit long sur, finalement, le problème de formation des journalistes en France. Le prix Nobel, dans l'intitulé du prix Nobel, il était question du... du pouvoir de marché, en disant voilà, il a eu le prix Nobel pour finalement à ses travaux qui concernent le pouvoir de marché des firmes. Le pouvoir de marché des firmes, c'est leur capacité finalement à exercer du pouvoir de monopole et donc à appliquer des prix trop élevés par rapport à ce qui est socialement souhaitable. On en revient un peu à votre débat sur le marché des biens. Et tous les économistes français, en fait, ont traduit par le pouvoir du marché. Et on fait de Jean Tirole une sorte de héros du marché non régulé, qui est une fiction d'ailleurs à laquelle personne ne croit, parce que le marché, c'est évidemment des règles du jeu bien définies. Donc voilà, toute l'œuvre de Jean Tirole, sa première partie sur l'organisation industrielle, concernait la manière de réguler les monopoles et de faire en sorte que les entreprises qui peuvent, au fond, soutirer trop d'argent aux consommateurs soient contraintes à ne pas le faire. Et ça, c'est une longue tradition française, en fait, hein, la régulation.
L'une des thèses, d'ailleurs, de Jean Tirole, c'est de séparer le régulateur du politique.
Exactement.
Dont on parlait tout
à l'heure. C'est une des thèses qui a eu qui a rencontré une écoute chez le politique au moment où des entreprises comme.
Sur cette question, cette pique lancée par l'association Attaque, qui souhaite donc la transaction des revenus financiers, c'était au départ en tout cas le fondement de cette association, qui dit que l'économie, façon Jean Tirole, néolibérale, est responsable de cette crise.
Écoutez, 95%, enfin c'est ma réponse, hein, 95% des travaux de Jean Tirole, ça concerne comment réguler les entreprises pour les empêcher de faire des choses qui sont inefficaces du point de vue du consommateur. Et les 5% restants, qui sont essentiellement ces travaux récents, c'est des travaux qui cherchent à intégrer la psychologie pour prendre en compte les irrationalités des gens. Donc c'est vraiment une attaque de très très mauvais foi, si vous voulez. Vraiment, là, je suis pas là comme avocat de Jean Tirole, mais je sais pas quoi répondre d'autre. C'est complètement déplacé par rapport à la réalité. Aller sur sa page web, enfin, c'est pas des informations cachées. Hein. Ces papiers sont dans le domaine public. Ils sont en anglais pour l'essentiel. Donc ça, c'est un autre problème. C'est qu'il faut accepter de lire.
Donc il y a un problème et de traduction et de compréhension. Ouais. Olivier Favreau.
Bon, je rassure tout de suite Augustin. Je lis, je parle, j'écris l'anglais. Donc là, le problème n'est pas celui-là. Alors moi aussi, je voudrais dire un mot sur Jean Tirole. D'abord pour dire que quand j'ai appris son prix Nobel, ma première réaction, c'était une réaction un peu cocardière. Je me dis, chic, tiens, enfin un Français qui reçoit le prix Nobel. Alors par contre, ça, j'ai été déçu. Nous avons été horriblement déçus par son intervention brutale, dans le débat justement sur la création d'une nouvelle section, où précisément, à propos des autres, de ceux qu'il appelle et ceux qui s'autoproclament hétérodoxes, ça relève du relativisme et de quelque chose qui conduit à l'obscurantisme.
Alors peut-être que pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, des économistes hétérodoxes a souhaité au Conseil national des universités créer une section économie pluridisciplinaire et à ce moment-là Jean Tirole a écrit à Geneviève Fioraso, qui à l'époque était la secrétaire d'État chargée de cette question-là, pour dire que ce serait, je le cite, une catastrophe pour la visibilité et l'avenir de la recherche en sciences économiques de notre pays.
Voilà. Donc vous voyez, ça donne une mauvaise illustration, évidemment, du mode de fonctionnement sous l'angle du critère du pluralisme de notre communauté. Et je voudrais évoquer je voudrais évoquer. Alors, je vais vous lire quelques phrases du texte suivant.
Mais très rapidement, parce qu'il est 12h56, s'il faut pouvoir répondre.
Les économistes imposent aujourd'hui un monopole des méthodes ou des hypothèses, souvent avec le seul argument qu'elles appartiennent au mainstream. Les économistes se font les avocats de la libre concurrence, mais ne la mettent pas en pratique sur le marché des idées. Nous lançons donc un appel pour un nouvel esprit de pluralisme en économie qui laisse place à des discussions critiques et des échanges tolérants entre différentes approches. Qui a dit cela ? Réponse, 44 économistes américains, un encart publicitaire dans l'American Economic Review en 1992, dont 5 prix Nobel d'économie. Donc je vois que les interventions des prix Nobel d'économie, d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, se relèvent de registres, disons, assez différents.
Très, très, très rapidement.
Ouais, donc moi, j'ai pas de manifeste à vous lire, mais pour conclure et pour essayer peut-être d'expliquer la lettre de Jean Tirole, hein, qui n'était pas une lettre qui était destinée à publication, qui était une lettre au ministre, je crois que le point de vue qu'il défendait, c'est qu'il s'agissait de maintenir l'unité de la discipline économique. Il n'y a qu'une économie, exactement comme il y a une seule biologie, il n'y a pas une biologie hétérodoxe, et une biologie orthodoxe. Le principe scientifique, c'est que l'hétérodoxie doit être à l'intérieur de la discipline. C'est le principe de la science et d'une science qui évolue. Nous ne sommes pas, les orthodoxes n'ont pas du tout envie d'être une sorte de musée de l'économie avec une doxa bien établie. Non, donc le débat, il doit avoir lieu dans la discipline. Il doit y avoir une seule discipline avec au sein d'elle des conflits d'idées.
Vous avez vu les chiffres sur les recrutements ? Nous sommes de fait exclus de la discipline.
Mais moi, vous me comptez comme hétérodoxe. hétérodoxe ou comme orthodoxe dans vos chiffres? Parce que moi, je me perçois comme hétérodoxe.
J'ai l'impression qu'on revient il y a une heure où on se posait déjà la même question. Merci à tous les trois d'avoir été en direct avec nous en ce vendredi 17 juillet. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, pour parler dopage et Mont Ventoux. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Inter à la page Le Débat de Midi. Vous pouvez aussi laisser vos réactions pour les émissions à venir, franceinter.fr donc, ou bien sur notre répondeur au 01 56 40 15 85.